Béni soit Dieu, qui nous permet encore cet après-midi d'être ici. Comme nous l'avons chanté en sa sainte présence, nous pensons toujours dans ces moments-là à nos bien-aimés dans le monde qui aimeraient avoir cette liberté. À l'heure où je vous parle, certains sont arrêtés, battus, torturés, emprisonnés, mis à mort. Ces jours derniers, il y a quelques heures, des persécutions horribles ont eu lieu contre les nôtres en Inde. Des églises ont été saccagées. Il y a des projets de meurtre contre les missionnaires et les chrétiens qui se réfugient en catastrophe dans les villages. Béni soit Dieu qui nous permet de saisir encore la liberté que nous avons. Je ne sais pas si nous réalisons toujours le privilège qu'est le nôtre, mais en tout cas, nous profiterons au maximum de ce temps passé devant le Seigneur cet après-midi. Je veux saluer ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas pu être des nôtres ce matin, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble devant lui. Nous avons parlé de ce grand thème ce matin, l'apostasie arrive. Cet après-midi, nous verrons un autre volet de cette étude, mais toujours dans la même ligne. La fin de toute chose est proche. Et dans cette perspective-là, qu'est-ce que le Seigneur attend de son Église? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Je voudrais introduire cet après-midi en lisant avec vous, on lira quelques textes ensemble, dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 7. Cette première lecture sera courte. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7. Inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre écrit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » La fin de toute chose est proche. Bien-aimés frères et sœurs, il faut le savoir. Il faut le croire. Il faut le sentir. Et il nous convient d'agir en conséquence selon la pensée et la volonté de Dieu. Vous savez que parmi les hommes vaillants qui entouraient le roi David, il y avait les fils d'Issacar. Et il nous est dit de ces hommes-là qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et je crois que d'une certaine manière, nous devrions être des fils d'Issacar. Nous devrions avoir l'intelligence des temps dans lesquels nous sommes entrés afin de savoir ce qu'il nous convient de faire dans la volonté du Seigneur. Nous remarquons aujourd'hui, puisque nous parlons de la fin de toute chose qui est proche, qu'il y a beaucoup d'insensibilité, voire d'endurcissement, d'apathie dans une fraction du peuple de Dieu. Et je le dis, cette fraction de l'Église doit se réveiller, c'est impératif et c'est urgent. Parce que le Saint-Esprit nous dit la fin de toute chose est proche. Mais de quelle fin s'agit-il? Parce qu'il faut savoir de quoi nous parlons. Il ne s'agit pas de la fin du monde, parce que la fin du monde est très loin devant nous. Nous savons bien qu'il y aura la première phase du retour de Jésus dans les airs pour l'Église. Il y aura le temps de la mise en place du système de l'Antéchrist. Il y aura un grand conflit mondial contre Israël. Puis, le retour de Jésus, ce n'est pas un deuxième retour, c'est la deuxième phase du retour de Jésus,
mettant ses pieds sur le mont des Oliviers, arrêtant le carnage et établissant un âge d'or, un règne de paix de 1000 ans, au terme duquel le diable qui aura été lié va être délié, séduire les habitants de la terre et les engager dans un dernier conflit. Mais quel est le laps de temps de toutes ces choses, nous l'ignorons. Donc la fin du monde est très loin devant nous. Et quand le Saint-Esprit inspire à l'apôtre Pierre cette phrase « La fin de toutes choses est proche » et qu'en conséquence, l'Église a quelque chose à faire, il ne s'agit pas de la fin du monde, mais de la fin dont parle l'apôtre Pierre au début de sa lettre, et je vous propose de le lire avec moi. Premier épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3, et nous ferons la lecture jusqu'au verset 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc cette fin dont parle l'apôtre Pierre est marquée par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons bien qu'à la fin du monde, l'Église aura été enlevée depuis fort longtemps. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit au chapitre 10, verset 37, « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » L'apôtre Jacques a écrit au chapitre 5, verset 8 de sa lettre, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et puis il y a ce texte, puisque nous parlons de proximité de Jésus, dans la seconde épître de Pierre au chapitre 3, verset 8, « Mais je m'y attarderai demain matin avec ce thème, soyez prêts pour le troisième jour. » En attendant, l'apôtre Pierre écrit dans sa seconde lettre au chapitre 3, les versets 8 et 9, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Nous comprenons, à la lumière de l'Écriture, qu'il reste peu de temps. Quant à moi, je ne prêche plus que Jésus est à la porte, je prêche que Jésus a la main sur la poignée de la porte. Parce que, à l'échelle de Dieu, je crois qu'il nous reste quelques secondes. Tout nous dit que Jésus est à la porte. Il revient de façon imminente. Nous ne sommes pas comme les sectes. N'allons pas essayer de calculer, de prophétiser le jour, l'heure, ni même l'année. Mais nous sentons bien que dans l'histoire de l'Église, tout est en train de se préciser, de s'accélérer, et que Jésus est extrêmement proche. Vous savez que dans l'une de ses paraboles, Jésus a dit qu'à un moment donné, au milieu de la nuit, on a entendu le cri « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Je crois que le Saint-Esprit est en train de faire retentir ce message-là aux oreilles des serviteurs de Dieu fidèles, aux oreilles des églises fidèles. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Ce cri retentit dans la nuit de ce monde. Il y a des signes aujourd'hui qui se produisent sur notre planète qui ne se sont jamais produits avant et qui sont des signes spécifiques de l'imminence du retour de Jésus. Israël, qui aurait pensé que cette diaspora planétaire qui a duré des siècles verrait néanmoins le retour du peuple juif sur sa terre avec la proclamation en 1948 de l'État officiel d'Israël. C'est l'accomplissement littéral d'un grand nombre de prophéties de l'Écriture. Dieu règle les affaires du monde selon le conseil de sa volonté. Et puis il y a certains signes écologiques, moraux, spirituels. Il y a des signes positifs, il y a la victoire de l'Église dans l'évangélisation du monde, il y a des endroits où l'Église est véritablement conquérante du façon extraordinaire. Je vous propose que nous lisions quelques paroles du Christ au sujet de ce qui va se passer dans les temps qui vont précéder son retour. Matthieu 24, nous lisons les 14 premiers versets d'abord et puis nous irons au verset 36 ensuite. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais un athée notoire ne peut pas nier que cette prophétie du Christ s'est accomplie à la lettre en l'an 70. Les armées romaines sont venues envahir Jérusalem, tout a été détruit, le temple a été détruit, allez à Jérusalem aujourd'hui, il n'en reste que les fondations. La prophétie de Jésus s'est accomplie à la lettre. Il n'y a même pas besoin d'être un chrétien pour croire ça, c'est de l'histoire. Et pour vous le signaler quand même au passage, aucune prophétie de l'Écriture qui devait s'accomplir n'a failli. C'est vérifiable, tout ce que Dieu a dit s'est accompli. Il n'y a aucune erreur dans l'Écriture, et je ne vois pas pourquoi ce qui annonce ce qui n'est pas encore arrivé, ce serait une erreur. Il faut nous y accrocher de toutes nos forces. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. En fin de compte, elle est triple, la question. Et c'est pourquoi l'interprétation de Matthieu 24 n'est pas simple, parce qu'il semble que des choses s'imbriquent les unes dans les autres. Les apôtres vont poser trois questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Ça, c'est l'an 70. Ensuite, quel sera le signe de ton avènement ? Donc ça c'est le retour de Jésus. Et la fin du monde, ça c'est la troisième question. Et Jésus va répondre aux trois questions. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper en matière d'exégèse biblique, parce que dans la réponse de Jésus, il y a des choses qui concernent l'an 70, d'autres qui concernent la phase de son retour pour l'Église, et d'autres qui concernent la fin du monde. Je continue. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et notre planète est un volcan en ce moment. gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. On a le sentiment qu'on va vers la confrontation de deux blocs. J'ai ma petite idée là-dessus, mais je ne vous en parlerai pas, ce n'est pas mon propos. Et il y aura en divers lieux des famines. Il y en a toujours eu, mais pas comme maintenant. Des tremblements de terre, il y en a toujours eu, mais jamais comme aujourd'hui. Et Jésus dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est très intéressant ici, parce que mes sœurs qui avaient mis au monde un bébé, vous savez comment ça se passe. Il y a des contractions, et plus on s'approche du moment où l'enfant va naître, plus les contractions sont fortes et rapprochées. C'est ce terme-là que Jésus emploie ici. Quand il parle du commencement des douleurs, ce sont les douleurs de la femme qui va accoucher. Alors nous réfléchissons du coup, et nous nous disons, mais alors, ces douleurs planétaires, plus on se rapproche du moment, plus les douleurs vont être fortes et rapprochées. Et c'est ce à quoi nous assistons. Par exemple, l'un des grands événements qui a été une grande contraction pour l'Europe, c'est quand le mur de l'Est est tombé. On a vu une accélération de l'histoire européenne à partir de ce moment-là, incontestable. Et examinons ce qui se passe, soyons à l'écoute de ce qui arrive, et nous allons nous rendre compte, si Jésus ne revient pas à la fin de la journée, que les contractions vont être de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées, parce qu'encore une fois, c'est ce dont parle Jésus ici. Le commencement des douleurs, c'est les douleurs de la femme qui accouche. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et ça fait le lien avec ce matin. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est la grande bouffée d'air frais au milieu d'une annonce de choses terribles. Et puis regardez cette note positive. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous lisons au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Mon propos cet après-midi, bien que ce soit extrêmement passionnant, n'est pas de faire un exposé sur les signes des temps de la fin. Simplement, j'ai voulu vous lire ces paroles du Christ pour que nous sentions que la fin de toute chose est proche et que nous sachions bien quelle sorte de fin le Seigneur place ici devant nos cœurs. Il faut donc que nous réagissions en conséquence. La fin de toute chose étant proche, le Seigneur va nous exhorter à la sagesse et à la sobriété pour la prière. Je vous laisse le texte dans la langue grecque, le texte original. La fin de toute chose est proche. Comportez-vous donc sagement et soyez sobre en vue des prières. Le Seigneur me dit ici, soyez donc. Il ne me dit pas, je te conseille, si tu ne trouves pas trop mauvais. Je suis là devant un ordre qui vaut tous les autres. Soyez donc sage et sobre pour vaquer à la prière. Le Seigneur attend de nous une conduite en rapport avec cette intelligence des temps de la fin. Sage. Le Seigneur attend de moi un comportement équilibré, un comportement clairvoyant qui va m'amener à des choix dans mes activités, à des choix dans mes loisirs, à des choix dans mes compagnies. Il y a des gens, vous en avez fait l'expérience, ce sont des chronophages. C'est quoi ça un chronophage? C'est quelqu'un qui mange le temps. Il y a des gens qui vous mangent du temps. Donc il faut un comportement sage. Sagesse au niveau de notre esprit. Sagesse au niveau de notre âme. Sagesse au niveau de notre corps. Cette sagesse doit imprégner toute ma vie. Sobriété. Soyez donc sage et sobre. Pas d'excès. Sobriété dans l'emploi du temps. Une révision de mon calendrier. Une révision de mon planning. Sobriété dans l'échelle de mes valeurs. Sobriété par rapport aux choses de la terre. Pas de gaspillage de temps dans les futilités. Je sens que la fin est proche. Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église? Qu'est-ce que le Seigneur attend de son Église? La réponse va peut-être nous décevoir, mais elle va sûrement nous remettre en question. Permettez-moi d'abord d'insister sur quelque chose. Pour vaquer. Soyez sage et sobre pour vaquer. Ça, c'est la traduction seconde. Ah, j'aime bien cette traduction-là parce que le mot vaquer, c'est un mot de la même famille que vacances. Alors déjà, les jeunes, ils sont contents. Peut-être moins dans quelques secondes, mais... Qu'est-ce que Dieu me dit ici? Écoute, ouvre bien tes oreilles, regarde, sois intelligent, et l'intelligence des temps. Sens que la fin est proche, sens-le. Alors maintenant, voilà ce que j'attends de mon Église. Sagesse, sobriété, pour avoir des vacances. Il faut que l'Église du Seigneur à l'échelle planétaire fasse preuve de sagesse et de sobriété pour avoir des vacances. C'est-à-dire, du temps de libre. Parce que c'est ce que ça veut dire. Et ce temps de libre, Dieu attend que je le consacre à la prière. Soyez donc sage et sobre pour avoir des vacances, et dans ces vacances, j'entends que vous vous teniez devant ma face. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une faute d'avoir des vacances tout court et de se détendre. Si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, je serai au Portugal. Pour 15 jours. C'est pas un péché. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que dans ma vie, j'ai de plus en plus de vacances, du temps libre, pour me tenir devant Dieu. Notre lucidité face à la brièveté du temps qui nous sépare de la fin doit provoquer en nous l'attitude juste que Dieu attend. Je vous le dis, il y a bien trop de planning surchargé. Et avec parfois des choses qui ne sont pas essentielles. Des vies chrétiennes sont bien trop agitées. Trop d'envahissements de toutes sortes et qui nous dévorent. Dieu dit stop. Stop, vous faites fausse route. Stop. sentez que la fin est proche. C'est un son de trompette qui retentit pour l'Église mondiale. Soyez sages et sobres. Dieu attend son peuple devant sa face. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors là, pour ça, comme pour tout le reste, je vais regarder Jésus, parce qu'il est mon modèle. Et je ne vais pas le regarder cet après-midi dans la gloire, je vais le regarder sur la terre, parce qu'il est venu comme un simple homme, comme un serviteur, semblable à nous. Alors Jésus, qu'est-ce que tu as à m'enseigner en tant qu'homme, parce que tu as partagé la chair et le sang comme moi? La première chose que Jésus a faite avant son grand ministère public a été de prier. Et de prier intensément. Matthieu 4, 1 et 2. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et ne doutez pas un seul instant que ce temps de jeûne a été accompagné de prières. Jésus n'a pas fait une grève de la faim. Il s'est tenu devant Dieu son Père. La vie de Jésus, a été jalonnée de prières intenses. Avant de choisir les 12 apôtres, Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il fallait bien une nuit, Jésus. Il te fallait bien une nuit de prière pour qu'au matin, tu choisisses Judas. Il te fallait bien une nuit de prière pour qu'au matin, tu choisisses Judas. S'il y en avait un qui savait ce qui arriverait avec Judas, c'était bien Jésus. Il y a des chemins dans lesquels Dieu nous veut et que nous n'aurons la force d'emprunter qu'en nous tenant devant la face du Seigneur. Parce que notre chair dira non, parce que notre raison dira non, mais quand Dieu dit oui, c'est ça le chemin et que tu n'as pas la force d'y aller, il ne te reste qu'une voie, c'est la prière. Seigneur, donne-moi la force de prendre ce chemin. Parce que je sais que c'est le tien. Ma raison dit non. Ma chair dit non. Mais je veux faire plier tout ça devant ta volonté. Après la multiplication des pains, Jésus n'a pas accepté le trône. Il n'a pas signé des autographes, des royalties. Mais il a prié. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Les épreuves, c'est dangereux. Les bénédictions, tout autant. Le désert est dangereux. Il faut y jeûner et prier. Mais les démonstrations de la puissance de Dieu au travers de nous sont tout aussi dangereuses. Il faut rester à notre place. Notre place n'est pas sur un trône, il n'y a que le Seigneur qui sera sur le trône. Notre place est de rester d'humbles serviteurs et après les plus grandes bénédictions, prions. Pour commencer ces journées, et il les a commencés très tôt, Jésus priait. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La première heure, c'est le gouvernail du jour. Si chez toi, tu n'as pas le temps de rencontrer Jésus avant de sortir ta maison pour commencer ta journée, tu ouvres la porte et tu vois le diable. Parce que lui ne te rattrapera. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je n'exagère rien. Nous savons toutes les sollicitations, toutes les tentations qui s'abattent sur nous jour après jour. Comment est-ce que je peux affronter mon ennemi dans la journée si je n'ai d'abord pas rencontré le Seigneur? Et vous savez qu'en Israël, le soleil se lève de bonne heure. Jésus le devançait et il commençait ses journées devant la face du Père. La prière lui était familière. Luc 5, versets 15 et 16. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Dans le domaine de la prière, comme dans tous les autres domaines, Jésus est notre modèle. Luc 11, verset 1er, j'aime beaucoup ce texte. J'ai toujours essayé d'imaginer pourquoi l'évangéliste Luc avait écrit ça. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il n'était pas loin ? Combien de temps il a prié ? Comment il a prié ? Est-ce qu'ils l'ont entendu ? Je n'ai pas la réponse à mes questions, mais je sais une chose. C'est que lorsqu'il a eu terminé de prier, les disciples ont dit « Oh là, nous on ne sait rien là-dedans. Seigneur, enseigne-nous à prier. » Ils ont senti leur faiblesse et leur besoin d'être enseignés par le Seigneur à ce niveau-là. J'étais pasteur depuis quelques années et le comité missionnaire du mouvement auquel j'appartenais à l'époque s'était rassemblés dans notre église, enfin dans les locaux de notre église pour quelques jours de travaux. Et le mardi soir, il y avait la réunion de prière, donc les frères du comité missionnaire étaient à la réunion de prière. Donc il y avait eu très peu de chants, je dirais les choses tout à l'heure, une très très courte exhortation à la prière. Et à ce moment-là, nos églises priaient à genoux, nous nous sommes mis à genoux pour prier le Seigneur. Alors, nous, la brochette de jeunes pasteurs était au premier rang, et il y avait les frères du comité missionnaire. Et je me suis trouvé à côté d'un de mes pères dans le ministère, un homme de Dieu que j'aimais beaucoup, qui est maintenant dans la gloire du Seigneur. Il s'est mis à prier, il était juste à côté de moi, à ma gauche. Ah, ça n'a pas été long. Je suis sûr qu'il a dû prier 30 secondes. Mais il est allé, c'était comme une flèche qui partait. Et moi, j'étais à côté. Je me suis dit, mais tu ne sais pas prier, mon pauvre gars. Tu n'as jamais prié de ta vie. Il y avait une telle force, une telle onction, une telle foi, un tel combat dans ces 30 secondes que je me suis dit, mais tu n'as jamais prié de ta vie, toi. Tu ne sais pas prier. La prière de 30 secondes, ça a valu une étude biblique de 5 heures. Et je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça quand les disciples se sont trouvés dans la présence de Jésus. Quand il a eu terminé, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Les heures précédant la crucifixion furent marquées par un combat intense dans la prière. Luc 22, versets 41 et 44. Pardonnez-moi de vous lire un texte, je ne sais même pas ce que je lis. Je ne sais même pas ce que je lis. Il faut vraiment le suivre au milieu des oliviers noirs, pour être là, le regarder, l'écouter, pour comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé. Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Eh oui, n'était-il pas la pierre rejetée ? Il s'est mis à genoux et il a prié. Il prenait l'enfer en face. Le diable et tous les démons. Et il fallait avoir la force et la volonté d'aller jusqu'à la croix. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombèrent à terre. Nous ne savons rien de la prière. Je vous le dis avec respect parce que je ne vous connais pas. Mais je sais, moi, où j'en suis. Nous sommes des misérables dans la prière. Il faut nous approcher du Christ et qu'il nous baptise dans un esprit de prière. Je vous le dis, il est possible que nous ne nous revoyions jamais sur la terre. Mais je vous l'aurais dit cet après-midi, du fond de mon cœur, c'est une question de vie ou de mort. Pour nos églises. Nos projets, c'est une chose. La face de Dieu, c'en est une autre. Il n'y aura pas le chemin et la construction de Jacob s'il n'y a pas Péniel d'abord. Dieu avait des projets pour Jacob. Ça allait être formidable. Il allait devenir Israël. Il y avait plein de choses devant Jacob. Mais d'abord Péniel. Et si la face de Dieu ne se lève pas sur ta vie, les choses ne peuvent pas se faire comme il lui convient. Les dernières paroles de Jésus sur la croix sont une prière. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Et aujourd'hui, il est vivant. Au siècle des siècles. La parole de Dieu me dit que Jésus, aujourd'hui, exerce pour nous un ministère. Et vous savez quoi? Il prie. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas un message farfelu, c'est écrit. Christ est mort. Bien plus. Comment? Paul ose dire bien plus alors que la croix est le fondement de l'évangile. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Prends courage, il intercède pour toi. Il intercède pour toi, il intercède pour moi. Et heureusement, parce qu'on ne serait peut-être plus là cet après-midi. Hébreux 7, 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Savez-vous pourquoi François ne peut pas être le vicaire du Christ sur la terre? Quand je dis François, ce n'est pas un frère qui s'appelle François, je n'ai rien à voir. Je parle du pape actuel. Le pape François ne peut pas être le vicaire du Christ sur la terre aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Il n'a chargé personne d'être son vicaire. Il est toujours vivant et il intercède en faveur de son Église. Gloire à Dieu. Bon, ça c'est Jésus. Alors qu'est-ce que Dieu attend de son Église? Et on a marqué sur les flyers, je crois, l'Église de la 11e heure. C'est nous. La fin est proche. Nous sommes l'Église. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous pourrions espérer des choses passionnantes. Ben Dieu me dit ce que j'attends de mon Église, c'est la prière. Oh, mais Seigneur, on a plein d'idées. La prière. La fin est proche. Alors, tu vas être sage, tu vas être sobre, tu vas avoir des vacances. Et ces vacances, j'entends que tu les emploies à chercher ma face. La réponse peut paraître étonnante, mais c'est la réponse de Dieu. Et j'ai remarqué, avant d'aller un petit peu plus loin avec vous, que Jésus insiste sur la prière en rapport avec la fin de toute chose. Jésus lui-même l'a fait, avant Pierre. Marc 13, 32. Prenez donc garde. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce jour, quand ce temps viendra. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous savez-vous que je prie de plus en plus pour ça? Je ne sais pas vous, mais très souvent quand je prie avec mon épouse, je dis à Dieu, Seigneur, donne-nous et donne aux chrétiens d'avoir la force d'échapper à tout ce qu'il y a. Jésus m'a demandé de prier pour ça. Alors, Jésus nous exhorte à ça en rapport avec les temps de la fin. L'apôtre Pierre l'a fait. Paul, maintenant. Éphésiens, chapitre 6, verset 13 et verset 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et oui, il a été enchaîné entre deux soldats romains. Il avait le temps de regarder la panoplie des soldats, et le Saint-Esprit lui a inspiré ça. Alors il va du casque jusqu'au soulier, il dit, mais oui, c'est formidable, les Romains ils sont habillés comme ça, mais le chrétien, il doit être habillé comme ça aussi. Alors il dit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors vous savez, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle, l'épée de l'esprit, enfin, toute la panoplie du soldat chrétien. Et il ajoute, résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté, parce qu'une fois qu'on a tout surmonté, on est toujours en danger. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il n'a pas dit prier les saints, tous les saints. Priez pour tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens. Mais quand on y réfléchit, le mauvais jour, résister dans le mauvais jour, mais le mauvais jour par excellence, c'est la période de la faim. Par excellence, c'est ça le mauvais jour, c'est le temps de la faim. Dieu attend la prière. Jude, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Priant par le Saint-Esprit. On est dans l'épître de Jude. Dans quel contexte Jude écrit ça? Versets 18 et verset 24. Ils, les apôtres, vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Et puis le verset 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, etc. Donc, entre ce temps des moqueries qui va arriver sur le monde et cette promesse du Seigneur qu'il peut nous tenir debout, au milieu vous avez l'exhortation à la prière. Et c'est en rapport avec les temps de la fin. Alors, avec le frère Robert Gibier, on s'est mis d'accord sur une petite coupure cet après-midi. Je vais, avant cette coupure, puisqu'on a quelques minutes, terminer pour ce premier volet cet après-midi avec un mal grave. Et je vous demande de réfléchir avec moi. Après tout ce que nous venons de dire, je crois que très honnêtement, nous allons reconnaître que c'est justement dans ce domaine de la prière que nous avons failli le plus. Je parle d'une manière générale. Je ne doute pas qu'il y ait des chrétiens magnifiques qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui progressent, qui ont pris l'école de la prière et qui sont formés par le Seigneur et qui avancent dans ce domaine-là. Mais je dis d'une manière générale que c'est dans le domaine de la prière que nous avons failli le plus. Nous sommes plus parfaitement et plus savamment organisés que jamais. Mais l'Église manque de la puissance du Saint-Esprit et le diable, au balcon de l'enfer, ricane. Il y a dans notre texte un appel de Dieu. J'espère que nous allons l'entendre. Un appel de Dieu à un grand retour personnel. Un appel de Dieu à un grand retour familial à la prière. Un grand retour à la prière dans l'Église de Jésus-Christ. C'est un appel de l'Esprit de Dieu. Nous sommes une brebis au milieu des loups. Nous avons besoin de force quotidiennement. Je pense à nos jeunes engagés avec Christ dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. C'est de la boue autour d'eux. De la boue. Qu'est-ce qui va les tenir? Qu'est-ce qui va leur donner la force de ne pas être imprégnés par cet esprit du monde tellement subtil parfois? Le fait de se tenir devant Dieu. Nos foyers, nos couples sont menacés jour après jour. Je suis étonné de voir que dans nos églises aujourd'hui, et je suis bien placé pour le savoir, malheureusement, elle était belle dans sa robe de mariée, lui dans son beau costume, c'était formidable, 3 ans après, il se prend une maîtresse, des chrétiens. Et aujourd'hui, nous assistons dans nos groupes de jeunes à des couples qui volent en éclats les foyers, parfois, pas toujours, sont de plus en plus fragiles. Qu'est-ce qui ne va pas? Le gars, il prie jamais avec sa femme. Jamais. Puis un jour, le diable lui montre une femme plus belle que la sienne. Et là, on n'a pas envie de rire parce qu'on sait que c'est vrai. Nous sommes en danger. Jour après jour. C'est pas du négativisme que je fais là. C'est pas du défaitisme, c'est la réalité. Jésus a parlé de veiller, de prier à cause de la tentation. Et je te dis, mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas avec ta femme, si tu ne pries plus ou si tu n'as jamais prié, c'est le temps de le faire. Tu partages tout avec elle sauf la prière. Quand est-ce que nos couples vont revenir ensemble devant la face de Dieu? C'est indispensable. Et au niveau de l'Église, je vais en toucher deux mots dans la deuxième partie. Maintenant, je voudrais vous citer le texte de Jacques. Je vous donne le secret pour échouer. Si vous voulez tout rater, je vais vous donner le secret. Et le secret est dans la Bible. Il y a de tout dans la Bible. Jacques chapitre 4, verset 2. Écoutez bien, il y a 10 mots. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Un message simple en 10 mots. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est un message en 10 petits mots dans notre langue française. Alors, je vais décortiquer ça pour vous montrer que c'est simple. 10 mots, et j'ai compté, dont 7 ne comportent qu'une seule syllabe. L'un des trois qui reste n'a que 2 syllabes, c'est parce. Et quant aux 2 derniers, ils n'ont que 3 syllabes, posséder et demander. Et l'un de ces deux mots est des plus familiers, même un enfant comprend ça, c'est demander. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais ces 10 mots, brefs, simples, sont tellement chargés de sens qu'ils ont transformé plus d'une vie et qu'ils ont amené plus d'un chrétien médiocre et inefficace à un niveau de force élevé. Savez-vous, jeune homme, jeune fille, mon frère, ma sœur, cet après-midi, que ces 10 petits mots peuvent transformer tes idées, tes méthodes, ta vie, ton foyer, ton service pour le Seigneur, quel que soit ce service. Je me dis, réfléchis, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et mon souhait, et je vais prier pour ça, c'est que vous ne parveniez pas à vous débarrasser de cette phrase, qu'elle vous suit jour et nuit, et vous pouvez être certain de mes prières. Alors là, je vous l'assure, devant le Seigneur qui m'écoute cet après-midi, vous pouvez être sûr de mes prières. Je vais demander au Seigneur qu'il vous suive par ce texte pour que ce verset vous transforme. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors je le dis avant la pause, nous avons dans ce texte de Jacques le grand secret pour échouer. Le grand secret de la pauvreté du chrétien moyen et de son impuissance. Et là, on peut se poser plein de questions, mais j'espère que ça ne vous concerne pas. Mais je les pose comme ça. Je sème à tout. Pourquoi si peu de progrès dans ma vie chrétienne? Pourquoi si peu de victoire sur un péché caché, secret, dont je n'arrive pas à me libérer depuis des années? J'aime le Seigneur, je veux avancer, mais il y a ce lien. Pourquoi si peu d'âmes amenées au Christ? Pourquoi une telle lenteur à ressembler à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Et le Seigneur, avec amour et douceur, me dit, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Pourquoi, Seigneur, si peu de fruits dans mon service? Si peu de conversion, pourquoi les églises grandissent-elles si lentement? Pourquoi si peu d'affermissement en matière de connaissances spirituelles et de vie chrétienne? Et Dieu me dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et là, on élargit le cercle. Pourquoi, Seigneur, l'Église d'Occident, et on en parlera en fin de journée, pourquoi l'Église d'Occident progresse-t-elle si peu dans cette société? Pourquoi cette terre de France, est-elle si dure? Alors qu'ailleurs, dans certains endroits, il y a un souffle extraordinaire de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi si peu d'avancées contre le péché, l'incrédulité, l'erreur? Seigneur, pourquoi si peu de succès contre le monde, la chair et les démons? Seigneur, pourquoi le chrétien moyen a-t-il des principes de vie chrétienne aussi médiocres? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est-il aussi peu honoré par l'état de son Église actuelle? Et Dieu me répond, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mes frères, on prie. On va en reparler tout à l'heure. On va en reparler. N'ayez pas peur, restez quand même. Mais la deuxième partie, elle va commencer par la colère de l'agneau. Et je vais vous dire ce qui s'est passé dans ma propre vie à ce niveau-là et dans mon ministère. Nous allons marquer une pause quelques instants. Je crois que ce sera sage et bien pour vous.